Deuxième heure de cette magnifique émission, 11h05. Merci d'être là en Estrie au 107.7, en Outaouais au 104.7 et dans le Grand Montréal via le 98.5 FM. C'est un mot qui est à la mode depuis quelques années, je dirais un bon 3-4 ans certains, les influenceurs. On les voit beaucoup sur le web, très populaires. Certains sont plus que d'autres quand même, puis on va s'entendre, il y en a qui ont plus de contenu aussi. Il y en a qui aiment se montrer davantage, il y en a qui aiment avoir davantage de produits aussi. Donc on va tenter de décortiquer tout ça, puis en même temps, je vous pose la question tout de suite, est-ce que vous êtes justement influencé par ces publications, par les hashtags aussi, hashtags de compagnie, et on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur c'est quoi et qui sont-ils, avec Bruno Guglielminetti, qui est consultant en communication numérique, animateur de l'excellent podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci d'être là, Bruno.
Bonjour, Catherine.
Thierry Lindor, fondateur et président d'Influence MTL. Merci d'être là aussi.
Merci.
Et Émile Roy, vidéaste YouTuber. Salut, Émile.
Salut, c'est un plaisir d'être ici.
Et tu sais que c'est grâce à ta vidéo que tu as publiée sur les médias sociaux qu'on parle de ça aujourd'hui, des influenceurs, parce que ça a beaucoup été partagé. Bon, on va en écouter un extrait tout de suite.
Pourquoi est-ce qu'on décrit des vidéastes, des réalisateurs, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, des entrepreneurs, des photographes comme étant uniquement des influenceurs? À quel moment on s'est dit qu'on allait décrire des gens uniquement par la conséquence de ce qu'ils font, influencer, et non pas par ce qu'ils font? C'est absurde et ça crée énormément de préjugés par rapport aux créateurs sur Internet.
Le débat est lancé.
Voilà.
Émile, pourquoi tu as voulu parler justement des influenceurs? Parce que tu es un jeune homme qui est beaucoup dans le milieu des médias sociaux aussi. Tu es maintenant connu. Est-ce qu'on peut t'appeler influenceur parce que tu en fais aussi?
Oui.
Qu'est-ce qui a fait que tu es venu te chercher et tu as voulu faire une vidéo là-dessus pour dénoncer?
Ben, le mot influenceur, moi, je suis pas contre le mot à la base. Je trouve que c'est un mot qui est approprié parce que c'est vrai. C'est un mot on a raison d'utiliser ce mot-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'influence sur Internet ou même dans tous les médias traditionnels, ou peu importe, quelqu'un qui est connu, pour moi, a de l'influence. Donc, c'est un mot qui a sa raison d'être, mais qui, pour moi, est problématique quand il est utilisé en premier, quand il est utilisé pour décrire un groupe de gens en premier comme étant juste des influenceurs, alors que c'est pas un métier pour moi. Pour moi, c'est comme une conséquence. C'est un deuxième métier peut-être, mais pas un premier métier, pas une première description de gens.
Bruno, comment on pourrait décrire la définition, en fait, d'un influenceur? Parce que il y a même eu une série à VRAC TV où on voit les influenceurs, puis on voit leur travail se prendre en photo, puis ils expliquent un peu c'est quoi l'arrière-métier. Mais comment on pourrait les décrire?
Ben, simplement, c'est de par leurs produits, que ce soit de la photo, de la vidéo, du texte ou de l'audio, c'est des gens qui vont avoir une certaine influence sur leurs abonnés. Et puis moi, c'est ça, on en discutait... L'influence de quelqu'un, ça se mesure... Bien, évidemment, il y a des gens qui vont être impressionnés par les chiffres, mais ça se mesure d'abord avec l'écosystème qu'ils ont autour d'eux. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 150 personnes qui seraient abonnées à une personne si la personne est vraiment juste dans ses propos et que la qualité de ses abonnés fait qu'elle a vraiment une influence parce que ces gens-là, les gens qui la suivent, genre, sont des journalistes, sont des gens qui vont influencer dans leur domaine. Bien, ça, c'est le genre de personne à qui tu veux parler. Tu peux acheter 2 millions d'abonnés puis ces gens-là n'auront jamais d'écho sur tes propos. Exactement. Ça a l'air bien de les voir, mais il n'y a personne qui est là pour faire rebondir ou pour porter écho à ce que tu dis.
Et je suis totalement d'accord avec Bruno, mais je suis un peu en désaccord avec ce qu'Émile a dit. Émile a dit, les gens, à partir du moment où tu es connu, tu as une certaine influence. Et moi, j'aimerais démystifier ce côté-là parce que c'est faux. À travers Influence MTL, on a une conférence où on amène des influenceurs internationaux avec des influenceurs locaux. Puis on a des nano-influenceurs. Des nano-influenceurs, selon Google, là, c'est des gens qui ont autant de 200 followers. Souvent, c'est des gens qui sont bons dans leur quartier. Ça peut être le gars du coin, le gars du dépanneur, le retraité qui, lui, a une opinion sur le mail. Par exemple.
Le
ça,
citoyen
c'est des
engagé
exactement,
qui va faire bouger l'arrondissement
exactement.
Ou la mairie parce qu'il bouge. Puis c'est seulement sa rue. Hein?
Exact.
Sauf qu'il tweet puis ça agace l'administration locale.
Puis lui, il est nano selon la description, mais ce n'est pas quelqu'un de connu nécessairement. Tandis qu'un micro-influenceur, là, on parle de 5 000 et plus, aller jusqu'à 100 000. Puis un macro-influenceur, les Elizabeth Rioux de ce monde, les Kim Kardashian, là, ça a des millions de followers. Mais ça rejoint ce que Bruno a dit. Est-ce qu'ils ont de l'engagement? Est-ce que leur écosystème, leur audience les écoute et les engage dans leurs propos? Ça, c'est important.
Hey, mais il y a une façon maintenant de faire des affaires quand on regarde, justement, notamment surtout sur Instagram, c'est la plateforme, Facebook aussi, mais beaucoup sur Instagram, où on voit les gens quand même vanter de façon un peu détournée, on s'entend pour certaines personnes, des produits.
Oui.
Il y a beaucoup de placements de produits où ça passe par là, puis on espère avoir une influence auprès de la clientèle pour acheter ce produit-là aussi. Mais ça a été mélangeant pendant les dernières années parce qu'on disait, bon, la personne que j'aime a une belle montre. On parlait de la famille Kardashian,
ben ouais.
Ou encore même Elisabeth Rioux, qui vend maintenant des maillots de bain aussi. Oui. C'est une façon de faire de l'argent, là.
100%. Et puis moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est que présentement, on voit des influenceurs qui essayent de monnayer leur influence en essayant de faire la transition vers l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur d'abord. Je fais de l'immobilier aussi depuis longtemps. Je suis fondateur de Remax Growth & Town. Puis, je suis devenu un peu influenceur dans mon écosystème immobilier. Mais je ne suis pas d'accord que c'est seulement Instagram. Parce qu'il y a des influenceurs sur Twitter. Twitter, c'est ce que tu penses. Donc, on voit Donald Trump, des fois, il pense un peu n'importe quoi, mais il tweet sur ce qu'il pense.
Puis il y en a qui suivent.
Exact. Il y en a qui suivent, il y en a qui engagent. Tandis qu'Instagram, c'est ce que tu vois. Puis Facebook, c'est un peu du n'importe quoi. Mais YouTube, c'est une belle plateforme parce que, justement, on rentre dans la vie, admettons, d'un Émile Roy qui nous amène dans son écosystème. Ça, c'est le fun.
Mais justement, Émile, c'est du travail également. Oui. Parce que ça, il faut le mentionner. On dit oui, il y a des sous. Puis évidemment, c'est un peu galvaudé l'espèce de métier de YouTuber, de vidéaste. Parce que quand on regarde tes vidéos, puis je te prends un exemple, évidemment, parce que tu es avec nous, il y a quand même de la préparation. Là.
Oui, oui, c'est pour ça que pour moi, il y a quand même une séparation à faire entre influenceurs ou ce rêve-là, ce nouveau rêve en 2018 qu'ont beaucoup de jeunes d'acquérir une influence ou d'être connu ou d'avoir des abonnés. C'est un rêve qui est facile à avoir en 2018 par beaucoup de jeunes parce qu'ils veulent imiter un peu leur modèle qui, eux, avaient peut-être une passion. Et pour moi, c'est ça, c'est la deuxième catégorie de gens. C'est les gens qui avaient à la base une passion en vidéo, en photo, qui ont une compagnie, qui font l'entrepreneuriat ou peu importe. Tu peux avoir plein de passions différentes que tu partages sur Internet, sur ta plateforme et que ça t'amène éventuellement conséquences avec beaucoup de travail. Exact. Une influence.
100% d'accord. Au fait, tu peux pas t'auto-proclamer influenceur non plus.
Mais il y en a qui le font. Il y en a qui demandent des produits pas à peu près. Puis c'est même pas subtil. Là.
Exact.
Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui ont l'impression d'aller chercher une validation de ce qu'ils sont.
Oui.
Parce qu'ils sont invités dans des ouvertures d'événements, par des spectacles. Et c'est ça. Puis il y a aussi un rêve. Hein. C'est intéressant là, ce que tu dis parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui réalisent leur rêve en utilisant les réseaux sociaux parce que tu n'as besoin de rien pour utiliser les réseaux sociaux. Mm. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un que tu es bon.
Ouais.
Tu y mets ce que tu veux. C'est une auberge espagnole. Hein. Tu amènes ce que tu as. Dans certains cas, c'est tellement triste, mais dans d'autres cas, il y a des beaux choses. Puis moi, je fais une grosse différence entre les entre guillemets, influenceurs et le travail qu'Émile Roy a fait. Émile.
C'est un créateur.
Ben non, c'est ça. C'est un réalisateur. Quand on regarde les documents qu'il met en ligne, c'est des films, c'est des courts-métrages, c'est des documentaires. On est loin de la personne qui allume, là, je stéréotype, là, mais qui allume sa caméra, qui parle, qui donne son état d'âme, puis au bout de 30 minutes, ferme sa caméra. On le voit carrément fermer sa caméra. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très loin de la qualité léchée que les grands YouTubers, que les gens comme Émile vont offrir aux gens. Et c'est pour ça que, tranquillement, pas vite. Après, là, c'est la découvrabilité ou c'est d'aller trouver son public. Ça, c'est difficile, mais ça se fait. Il y a des techniques pour le faire, mais c'est ça. Mais une fois que les gens mettent quelque chose de qualité, ben là, ils ont beaucoup plus de chances que quelqu'un qui allume sa caméra puis ferme sa caméra.
Mais on le voit quand même, puis je lisais un article d'ailleurs d'une fille d'Instagram, on dit la plus populaire d'Instagram de Québec, elle avait 200 000 abonnés, puis elle dit « Ah, mais non, je suis pas une Insta-babe, tu vas voir ça. » Je suis désolée, là, mais tu vas voir son compte, puis ce qu'on voit, c'est des paires de fesses avec des seins, puis ça fonctionne, puis on parlait de Kylie Jenner, qui est devenue milliardaire avec sa compagnie de beauté, mais avec beaucoup des photos aussi comme ça. Donc, je me dis, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi qui regardent ça et pour qui ça devient une influence.
Mais c'est là que je pense que c'est important de tracer la ligne. Puis moi, la vidéo d'Émile, je l'ai adorée, mais moi, j'aurais rajouté que, justement, Émile, par l'entremise de sa passion, par l'entremise du fait qu'il est authentique, organique et qu'il vit sa passion à plein temps, il est créateur d'abord et son audience l'a baptisé en tant qu'influenceur. Donc, son audience lui dit « Tu es tellement bon, on aime tellement ce que tu partages et ce que tu crées » que nous te suivons et tu as de l'influence sur nous. Ce que vous venez de décrire présentement, c'est des influenceurs qui sont éphémères et ça n'a aucune portée, ces gens-là. Moi, je le vois avec Influence MTL, ils nous contactent à droite et à gauche. Thierry, on veut être sur ta conférence. Puis je leur dis, mais qu'est-ce que tu amènes à ton écosystème? Si tu t'amènes de la valeur à toi, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu amènes de la valeur comme Casey Neistat qui amène de la valeur à son écosystème? Gary Vee qui amène de la valeur et qui crée du contenu gratuitement?
Ouais.
Gratuitement. Puis après... on récolte qu'est-ce qu'on sème. Aujourd'hui, Émile, je suis convaincu, tu pourras peut-être en parler plus tard, mais tu peux vivre quasiment d'être ça, mais parce que tu as commencé avec une création, avec une passion réelle pour ce que tu fais.
Peux-tu en vivre, Émile?
Est-ce que je peux en vivre? Je suis encore aux études, mais c'est un très bon travail aussi à côté des études. Donc oui, c'est une grande chance, une grande opportunité. Après quelques années de travail, je
tu l'as créé, ta chance.
Tout le monde, ouais. C'est possible pour tout le monde.
Puis il y a un mot que tu as dit qui est important, Thierry, c'est éphémère. 100%. Ça veut dire que les influenceurs, c'est ça qui est fascinant. Un journaliste, parce qu'on peut souvent faire l'amalgame des deux de temps en temps, là. Un journaliste, c'est une spécialité. Quelqu'un qui est chroniqueur art et spectacle, quelqu'un qui est chroniqueur sport, quelqu'un qui est chroniqueur automobile, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis c'est leur carrière. Ouais. Un influenceur, dans ces domaines-là, il fait ça le temps que sa passion est là et qu'il a le temps de le faire. Mais si un jour, il trouve une job qui l'occupe, puis qu'il n'a plus le temps, il va lâcher ça. Et c'est pour ça que ça arrive souvent dans des campagnes, quand j'aide des entreprises à se retrouver, je dis, faites attention, il faut vraiment vérifier. Il n'y a pas une liste qu'on suit, ce n'est pas une liste de presse. Il n'y a pas une liste d'influenceurs. Là, elle peut avoir 6 mois de vie, dépendamment des domaines, qu'elle peut avoir 3 mois de vie. Là. Ça dépend des milieux. Mais c'est ça, au départ, ce sont des gens, tu sais, les gens qui en vivent, d'ailleurs, je pense que tu en parles, Émile, dans ton dernier vidéo. Il y a quoi? Il y a 25, 30 influenceurs au Québec qui peuvent vraiment vivre de ça.
Il faut rappeler que c'est très difficile. Il y a même pas, je pense, il y a beaucoup moins de 1%. Des gens qui créent sur Internet, qui peuvent en vivre, qui ont des réelles opportunités d'argent, puis des opportunités de carrière avec ça. Ouais. C'est très difficile. Il faut se tirer sa place du lot. Puis plus le temps avance, plus c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui
veulent faire
du
ben
oui. Qui veulent être sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, qui veulent créer. Donc, c'est très difficile de sortir du lot puis de réussir à avoir des opportunités. Mais c'est possible s'il y a de la passion, je pense.
Puis l'Internet ne ment pas. L'Internet, si ton produit, là, il n'est pas organique, il n'est pas authentique, elle va te manger puis elle va te cracher en 2 secondes de l'Internet. Là. C'est vrai. Puis en attendant, c'est pour ça que des gens comme Émile ont une pérennité. Je ramène Elisabeth Rioux, mais elle a réussi à transiger de ce qu'elle avait comme audience. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires qui vend 10 000 maillots de bain par semaine. C'est pas pire.
On peut dire qu'elle a bien réussi.
Et une qui a bien compris ça, qui vient de faire la transition et qui était connue dans le traditionnel, maintenant est en ligne, en partie, Caroline Néron.
Oui, 100%.
Sur Instagram, là, c'est fou. Et c'est intéressant de voir une personnalité comme ça qui s'utilise, même parce qu'elle a compris que le meilleur atout qu'elle avait de son entreprise encore, c'était elle. Exactement. Alors là, elle l'utilise. Elle met de l'avant le making-of de ses produits et ses produits. Et ça marche.
Mm-hmm. Mm-hmm. On continue la discussion. Et bien sûr, j'invite les gens à communiquer avec nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un produit parce que votre influenceur, votre créateur, votre vidéaste, YouTuber, je vais tous les nommer, Émile. Je ne veux pas que tu m'en parles de bête. Avez publié une photo ou une vidéo d'un produit quelconque. 1-866-790-9850. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des influenceurs? 514-790-9850. On s'intéresse aux influenceurs, et là, je vais le dire entre guillemets, parce que les influenceurs, on a tenté de décrire un peu la définition. Il y en a qui sont éphémères, il y en a que ça va être des photos que pour avoir des produits, mais la grande majorité, ce sont des créateurs comme Émile Roy ici en studio. On est avec également Thierry Lindor, fondateur et président d'Influence MTL aussi, et Bruno Guglielminetti de l'émission Mon Carnet qu'on peut retrouver en podcast. Le marché ici au Québec, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est extrêmement populaire. En Europe également, il faut dire qu'en France, en Belgique, il y en a vraiment de toutes sortes aussi, de tous les niveaux. Mais le marché ici au Québec, ça ressemble à quoi au niveau des influenceurs en tant que tels?
Ça ressemble à... il y a beaucoup d'inspiration, je pense, de ce qui se fait justement en France, aux États-Unis, parce que ça a été les premières grandes vagues. Puis au Québec, on a comme tardé un peu, à arriver dans cette roue-là de créer du contenu, puis les YouTubers, puis les Instagrammeurs, puis tout ça. Ça a commencé beaucoup, justement, en France, aux États-Unis. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, que ce soit en France, on peut parler de Cyprien, Norman, tous les gros YouTubers français qui ont fait des projets qui m'ont inspiré quand j'étais très jeune, puis que moi-même, je me disais, j'aimerais ça un jour faire des vidéos, des films, tout ça. C'était une grande source d'inspiration, donc je pense que ces gens-là qui créaient, qui faisaient des vidéos, qui avaient une passion, peuvent inspirer plein de gens. Puis ces gens-là qui sont inspirés après, que ce soit au Québec ou n'importe où dans le monde, peuvent créer eux aussi sur Internet. Donc c'est ça qui est magique et qui est beau avec Internet. Et donc voilà, au Québec, on est, on commence aussi à avoir plein de gens qui font des choses différentes, que ce soit dans le domaine de la fiction, court-métrage, ou moi, je fais un petit peu de court-métrage, tout ça, mais t'as des gens qui font plus sport, plus jeux vidéo, ouais, plus beauté, plus lifestyle. Tu peux avoir plein de choses différentes, des vidéos sur tous les sujets différents au Québec. T'as de plus en plus d'influenceurs variés, ouais, YouTubeurs variés.
Mais ça rapporte combien? Parce que, bon, puis là, je sais que tu me le diras pas, mais t'as publié une photo quand même hier sur Facebook, une publicité, ouais, où tu bois de la slush.
Voilà.
Et t'as marqué le hashtag pub pour expliquer, évidemment, parce qu'il faut le faire comme ça, que c'était une publicité. Donc, c'est ce genre d'influence-là qui va peut-être inciter des jeunes à dire « Ah, ben oui, je vais aller me chercher une slush cet après-midi. » Sans nous dire ton cachet, évidemment, mais peut-être que Bruno et Thierry pourront nous le dire, ça peut valoir combien, en fait, ce type de campagne-là?
Ben, pour les nano-influenceurs, d'habitude, ça va être une échange de services. Donc, moi, Bruno et Emile, on commence une compagnie de chandail, puis on veut s'installer à Rosemont. Ben, je vais trouver toutes les nano-influenceurs, les gens qui ont une belle portée dans ce quartier-là. Je vais pas me concentrer sur quelqu'un qui a 1 million de followers, parce que souvent, ces gens-là parlent à l'international. Les micro-influenceurs aussi vont charger un peu trop cher. Donc, dès que tu as plus de 100 000 followers, selon Forbes Magazine, c'est entre 150 à 250 $ par post que tu vas mettre sur les médias sociaux par publication. Et dès que tu passes en haut d'un million, ben là, ça peut passer très rapidement à des milliers de dollars. Tandis que quelqu'un qui est un nano influenceur, ça peut être juste, je te donne un chandail gratuit, mon produit en échange de ta publication, de ta plateforme, de ton marketing, jusqu'à 50 à une centaine de dollars.
Puis ça dépend aussi l'investissement qu'on demande à l'influenceur, toujours en guillemets, par rapport au produit. C'est-à-dire de faire une mention dans une publication sur Instagram ou par exemple l'histoire du breuvage, là, dans le cas d'Émile, ça c'est un cas, c'est une chose. Là, si on commence à voir apparaître le produit dans un film qu'il va produire, c'est déjà autre chose. Il y a un engagement. Ouais, ouais. Si on commence à voir que à chaque semaine, il nous présente une saveur différente, c'est encore plus de sous. Là, je prends son cas.
Elle est scriptée, mais là, ça n'a pas de bon sens.
Je vais le surveiller. Et donc, c'est ça. On peut, dépendamment de ce qu'on veut, ça peut, pour un entrepreneur qui a un produit à vendre, ça peut aller à part du produit échange, ouais, là, de 50 à 50 000 $ dépendamment de, ben, non. Au Québec, là, c'est 50 à 5 000, on a déjà une bonne partie.
Oui, il y en a une couple qui demande un peu plus cher.
Ah oui?
Ouais, ouais. Moi, pour avoir travaillé avec une couple de Montréal déjà, non, sans entrer dans trop de chiffres, il y a des gens qui sont en haut de 10 000 $ par publication. Puis encore une fois, ça dépend du contenu créé. Ouais. Je reviens à Émile. Émile, c'est quelqu'un, encore une fois, qui était un créateur. Il utilise son talent, ah, sa passion. Ben oui. Slush, je t'aurais pas contacté si tu faisais pas des beaux vidéos. On se dit les vraies choses, là. Slush te contacte parce qu'ils disent, ben Émile, il crée du beau contenu. Il y a une audience. Voici l'entente, peu importe l'entente que t'as. Donc toi, t'es en train de créer, tu vis ta passion et ça te donne des opportunités de monnayer tout ça.
Ouais. On va prendre quelques appels d'ailleurs avec les auditeurs. 1-866-790-9850. Je vous rappelle, vous pouvez toujours le faire via les médias sociaux ou encore par courriel. Claudel est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. J'avais une question pour tous les panélistes, pour justement du point de vue de l'entrepreneur. Moi, je suis une start-up, j'ai commencé à Valleyfield et justement, je me disais, est-ce que je ne devrais pas approcher des influenceurs? Mais la vraie question, c'est comment on s'y prend et quel est le véritable impact qu'un influenceur pourrait avoir pour une jeune entreprise.
Est-ce qu'on peut savoir l'entreprise, oui, c'est une entreprise de quoi?
Quel domaine?
Oui, c'est Aqua Picnic. Ce que nous faisons, c'est de la location de bateaux sans permis. Donc, monsieur et madame, tout le monde peut venir et louer nos bateaux pour une balade sur l'eau dans la baie Saint-François. Donc, c'est vraiment un produit d'expérience.
Là, je veux dire, vous avez eu une belle publicité à la radio.
Oui.
Mis à part ça.
Déjà, c'est ça, oui.
C'est sûr que là, vous pourriez, avec le type de produit que vous avez, les nano-influenceurs, oui, dans le coin où vous êtes.
100%.
Si vous en invitez à profiter de votre service gratuitement en échange de publication, c'est, ouais, déjà, vous avez une portée locale. Oui. Après, il faut voir peut-être pour les influenceurs qui ont une plus grande notoriété, mais toujours dans le régional, on s'entend. Il y a personne qui peut venir de Los Angeles pour votre bateau. Et là, ben, vous avez des choses à faire pour peu de sous, hein.
100%. Et moi, je crois que dans l'optique de ce que Bruno vient de dire, la stratégie serait 100% nano parce que d'aller à du micro, vous commenceriez à dépenser un petit peu trop d'argent. 100 000 followers et plus, ça serait pas nécessairement pertinent à votre business. Et surtout, je crois qu'il est important quand une entreprise commence à vouloir discuter avec des influenceurs. Moi, je fais de l'influence dans l'immobilier. On dit que j'ai une certaine influence. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est parlez-vous, communiquez. Assieds-toi avec un Émile, puis dis à Émile, c'est quoi l'objectif? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est du short term? Est-ce que c'est court terme? Ou est-ce que c'est long terme? On veut une pérennité dans notre relation de marketing.
Mais pour quelqu'un comme Claudel, un entrepreneur qui commence dans le métier, son entreprise, est-ce qu'on les trouve comment? Il n'y a pas un 800 influenceur, un 800 nano, où on va où, quel site?
Il y a des plateformes.
Oui, ben, il y a des boîtes qui représentent
maintenant,
nommément, là, je pense, Slingshot.
Oui, on peut parler
Goji,
du Slingshot.
Goji, c'est ça.
Ouais.
Donc, c'est deux grandes boîtes là, au Québec qui représentent. Il y en a d'autres aussi qui sont en lien avec, même des agences qui ont, des agences publicitaires qui ont des liens avec certains influenceurs et à qui on peut parler. Mais c'est sûr que le petit entrepreneur qui commence, là, moi, la meilleure chose que je ferais, c'est rentrer en contact avec l'influenceur qui vous intéresse
directement
après
ouais,
à votre
ouais.
produit.
Puis ça, c'est tellement vrai. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à discuter avec Casey Neistat, avec Gary Vee. C'est directement sur Twitter, parce que sur Twitter, comme on l'a dit tantôt, c'est ce que tu penses. Donc, tu ne vas pas le donner à ton adjointe pour qu'elle commence à écrire des messages. Et j'ai commencé une relation avec ces gens-là via Twitter. Et très, très, très rapidement, on découvre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers leur relation. Et quand tu es entrepreneur, une petite compagnie, et que tu débutes une start-up, tu as accès, je ne vais pas donner de promotion à personne, mais tu peux aller en ligne et trouver la réelle portée de ces gens-là. Ouais. Donc, pas le nombre de followers qu'ils ont, le nombre de commentaires, le nombre de partages, c'est ça qui
c'est
compte.
C'est ça qui est encore plus important.
C'est ça qui est important.
Ouais. Mm-hmm. Et ça s'adresse à qui, en fait, quand Émile ou d'autres du Québec aussi, je pense à Emma Verdé aussi, qui est extrêmement populaire, je pense à Cynthia Dulude, qui s'occupe plus du côté de la beauté. C'est surtout les jeunes qui vont adhérer à ce programme-là, qui vont adhérer peut-être plus à leur publication.
Ben moi, je dirais, si j'inclus les en guillemets, les mamans blogueuses, là.
Ouais. Il y en a beaucoup.
C'est,
ça, non,
c'est, comme c'est la quarantaine. Ouais, ouais. Puis je pense à des gens que j'entends ici, mais qui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux, qui parlent de voyage. C'est les 45 ans et en descendant, ça, il y a des niches et on peut les retrouver. Ou il y a un marché à développer, puis c'est peut-être intéressant pour les gens qui écoutent aujourd'hui. Ça va être, comme disent les Français, le marché des seniors, où il n'y a pas encore vraiment d'influenceurs vedettes. Et s'il y a un marché... Écoutez, les baby boomers, là, s'il y a un beau public à aller chercher, c'est ça.
Ils ont de l'argent aussi.
Ils ont du temps et de l'argent.
Et bientôt, ils vont prendre leur retraite, certains, et ils vont avoir du temps. Et il y en a qui ont des talents de conteur, il y en a qui ont des talents de monteur, de réalisateur. Alors, ces gens-là, s'ils s'embarquent là-dedans, puis ils commencent à découvrir, puis à apprendre les rudiments, parce qu'il y a une façon de parler, de s'exprimer, et de monter, de présenter, de distribuer sur Internet, qui n'a rien à voir avec le traditionnel. S'ils prennent le temps de s'investir et d'apprendre ça, bien là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Aux États-Unis, on commence à en voir sortir. En Europe, j'ai quelques exemples, mais au Québec, je ne vois rien à l'horizon.
Je crois que la barrière naturelle aussi, c'est le fait que les baby boomers ne sont pas d'une génération qui est habituée à consommer en ligne. Mm-hmm. Donc, c'est une chose de produire du contenu. Mais si je produis du contenu, admettons, moi, je suis dans l'immobilier, puis je parle de quartier, puis de condo, puis de triplex, duplex, puis je deviens influenceur, mais qu'il n'y a personne qui fait confiance à Shopify, à acheter en ligne. Donc, je pense que la barrière organique, Bruno, pour répondre un peu à pourquoi ce phénomène-là n'a pas encore explosé, mais tu as raison, ça serait un marché qui serait extraordinaire. Mais je pense que c'est ça, au fait. C'est la confiance à la consommation en ligne est, au fait, inhérente et très organique pour notre génération, les milléniaux et le high generation.
Mais justement, les milléniaux, c'est eux qui consomment beaucoup aussi.
Exact.
Qui sont beaucoup sur YouTube, les médias sociaux. On parlait de Facebook. Facebook un peu moins, là, plus Instagram aussi. Donc, c'est eux aussi qui regardent ces publications. Il n'y a pas une façon de les faire aussi parce que, bon, on parlait du hashtag pub, hashtag ad. C'est pas encore tout le monde qui le fait. Là. Puis il y en a des fois, c'est pas mal détourné ou c'est regarder ma belle casquette, mais finalement, c'est pour vendre un produit là, qu'on s'en rend compte après. Il y a pas...
Et ce qui est plus pernicieux aussi, c'est qu'il y a certains influenceurs qui vont le mentionner à quelque part. Ils vont pas nécessairement le mentionner partout. Alors, ça passe comme du contenu qui est fort intéressant. Puis là, tu dis, attends une minute, là, il me semble que ça ressemble. À la fin, tu as l'impression que c'est une pub. Et là, tu vas voir et tu fais le tour de ces plateformes. Ouais. Tu dis, ah oui, ici, c'est mentionné. Sauf que partout ailleurs, je ne l'ai jamais vu.
Oui, il y a encore un peu de travail à faire, mais on se dit, on est dans la bonne direction. Puis je pense que la grande majorité aujourd'hui, quand ils font un placement de produit ou une collaboration avec une compagnie, le disent clairement, puis le hashtag ad, hashtag pub, tout ça.
Puis les compagnies commencent, et les gens qui aident les compagnies, commencent aussi à pousser et à demander que ça soit mentionné, parce que de l'autre côté,
il faut être transparent.
Ça se retourne contre la compagnie.
Il y a une crédibilité aussi,
des
deux côtés.
Ben oui. Si je collabore avec L'Oréal, puis tu sais, les gens me disent des fois, Thierry, moi, je fais un peu de consultation, ils disent, mais pourquoi est-ce que L'Oréal ferait affaire avec un influenceur au lieu de faire affaire, mettons, qu'un billboard? Ben, les billboards de nos jours, c'est mort. La publicité à la télé, c'est quasiment mort. Tandis qu'on peut, et on peut pas le mesurer. Mais moi, là, si je prends 30 influenceurs, puis au lieu de me prendre un billboard à 1 million par année en budget, ça va me coûter une fraction du prix à payer des nanos, des micros, même des macros
et
influenceurs.
Tu vas avoir plus d'influenceurs.
Exact. Allez dans le centre-ville, marchez un peu, vous allez regarder, les gens regardent leur téléphone, pas le billboard.
plus les pubs. Ouais, exact.
Fait que vous devriez être sur leur téléphone.
Et voilà.
Et pour ceux qui désirent, parce que je sais que c'est la nouvelle, quand on demande à quelqu'un, à un jeune, maintenant, au secondaire, même primaire, ouais, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Ben, je veux être Emma Verdé, puis je veux être Émile Leroy, puis je veux être un influenceur. Hein? C'est ça que les gens disent. Un peu à l'époque, quand on disait, ben, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être une vedette.
Vedette.
Ouais.
Ah ouais. Seulement, toujours là, okay.
Mais comment on peut, justement, les aider, ces jeunes-là?
Ça, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu, c'est un grand enjeu, parce que c'est comme on disait, c'est le nouveau rêve, peut-être, d'avoir juste la conséquence, les effets positifs d'être connu, mais pas d'avoir tout le travail derrière, de la passion, puis tout. C'est là qui est important de. Parce que je pense que c'est possible pour tout le monde de devenir, entre guillemets, influenceur, mais avant tout, c'est important d'avoir une passion. Mais ça peut être plein de choses différentes parce qu'Internet, c'est ouvert à tout le monde, tous les types de. Tous les domaines, donc ça peut être plein de passions différentes, juste d'être passionné puis de travailler fort.
C'est drôle parce que tu me fais penser, quand j'allais voir des classes à l'université d'étudiants en journalisme, je leur disais, c'est beau le journaliste, puis là, vous allez savoir comment utiliser les outils, mais ça vous prend un fond. Oui, il y avait beaucoup de gens à l'époque, ça fait genre 10 ans là, que je faisais ces tournées-là, et il y a plein de gens qui voulaient être journalistes. Oui, mais journaliste de quoi?
Oui.
Tu sais, tu vas rapporter des nouvelles, mais de quoi? Trouve-toi une spécialité. Mais c'est la même affaire qu'on peut dire maintenant aux jeunes qui veulent devenir des YouTubers, qui veulent devenir des influenceurs ou des podcasteurs. On ne l'a pas mentionné, mais ça aussi, ça existe.
De plus en plus, ça augmente aussi les podcasts.
Ben, mais trouve-toi d'abord une passion, trouve-toi un intérêt, développe-toi une expertise, puis après, les gens, tu vas leur donner une raison pour venir t'écouter, pour te donner 5 minutes de leur temps, 10 minutes de leur temps ou une heure de ton temps.
Puis moi, quand je parle en conférence, puis je parle aux jeunes, puis ils me disent « je veux être influenceur », je leur dis « ben tout le monde veut un best-seller, mais personne veut écrire le livre. » Hein, Émile, c'est vrai, non?
Ouais,
donc, je leur dis, comme vous avez dit, comme Casey Neistat a dit, trouve ta passion, ça c'est ta première tâche, ta deuxième tâche, vis ta passion.
Ouais.
Puis le reste, ça va venir.
Oui, je terminerai en disant « travail » aussi.
Travail.
La détermination.
Sois passionné.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Émile Leroy, vidéaste, YouTuber, créateur, influenceur.
Bon.
Je le dis quand même. Thierry Lédon, fondateur et président d'Influence Montréal, et Bruno Guglielminetti, consultant en communication numérique, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet à chaque semaine, qu'on peut retrouver, bien sûr, sur le web. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un plaisir.
Ouais. Au retour, on s'en va parler de vins québécois. Est-ce que vous en achetez? Est-ce que vous avez des suggestions d'ailleurs à nous faire, vous pouvez le faire au 1-866-790-9850.